Bonsoir. Alors, dans ce flot de présentation, je vais peut-être quand même le compléter parce que si je suis là ce soir, c'est quand même principalement parce que je pratique à titre personnel et j'enseigne une forme de prière qui est proche de celle qui vous est chère, même si elle diffère par quelques aspects, et que de ce fait, nous naviguons un peu dans les mêmes eaux d'une prière contemplative, cherchant l'extrême sobriété d'un mot pour se tourner vers Dieu dans le souci de lui être présent. Donc, je n'emploierai pas le terme de méditation chrétienne que je me suis toujours refusé à employer pour respecter votre propre chemin et pour ne pas susciter de confusion. Dans ma langue à moi, je parle volontiers de prière silencieuse, parce que je me suis rendu compte que quand je parlais de méditation, souvent des chrétiens disaient bah, quel texte on va méditer, c'était un peu compliqué. Et que si on disait oraison, ceux qui n'étaient pas très chrétiens venaient pas. Et donc finalement, j'ai trouvé que prière silencieuse disait assez bien ce que je cherchais à dire. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je donne, pas très souvent parce que j'ai très peu de temps en dehors de l'université disponible pour cela, mais que je donne des sessions sur ce sujet. Et puis comme je ne peux pas faire beaucoup de sessions, c'est pour ça que j'ai publié deux livres sur la question pour tenter de toucher plus de monde et surtout pour partager des recherches que j'ai menées et qui m'ont émerveillé et qui m'émerveillent encore parce qu'elles sont loin d'être terminées sur la tradition chrétienne dans ce domaine. C'est-à-dire que j'ai été tout à fait stupéfait de découvrir combien ces pratiques de prière contemplative, de prière de présence reposant sur un mot, sont à peu près aussi anciennes que le christianisme et que bien souvent nous n'en savons rien. Bien souvent des chrétiens n'en savent rien. Et parce que cette tradition n'a plus été transmise, beaucoup ont imaginé qu'il était indispensable d'aller chercher en Orient des moyens pratiques pour entrer dans les voies de l'intériorité, alors que notre tradition, notre culture pouvait nous les offrir. Donc je vais avoir l'occasion de vous citer un certain nombre de ces auteurs que j'ai pu rencontrer, aussi bien dans l'Antiquité chrétienne, chez les Pères du Désert en particulier, au Moyen Âge. Alors Maître Eckhart a une place toute particulière dans mon cœur, c'est vrai, mais la situation de Maître Eckhart dans cette histoire est assez particulière puisque... Maître Eckhart est d'une époque et d'une tradition dominicaine dans laquelle on ne parle pas de méthode, donc il n'enseigne pas une méthode de prière, mais pourtant, les rares moments où il parle de la prière ou de sa prière, on s'y reconnaît quand on a une pratique de prière silencieuse. Et les gens qui pratiquent la prière silencieuse, quand ils tombent sur Maître Eckhart, ils se sentent à la maison. Donc il y a cette espèce de familiarité de l'œuvre de Maître Eckhart avec la prière silencieuse, alors que Maître Eckhart, on pourrait dire explicitement, n'en parle pas. Et puis, encore et surtout, la grande époque fascinante, passionnante, sur laquelle il y aurait des livres et des livres à publier, c'est le XVIIe siècle en France. Cet âge d'or de la vie spirituelle en France, où un nombre considérable d'auteurs spirituels de différentes traditions religieuses, bénédictins, dominicains, jésuites, capucins, toutes sortes de gens, ont enseigné ce qu'ils appelaient à l'époque l'oraison de simple regard, ou l'oraison de simple présence, ou l'exercice du moment présent. Enseigné par le Père Joseph, fondateur des deux sœurs bénédictines qui nous ont rejoints, Elles sont là parce que le Père Joseph leur a appris à prier comme ça, mais elles, c'était au XVIIe siècle, hein, et depuis, elles le font. Donc c'est tout à fait fascinant de voir cette moisson considérable de textes qu'on peut trouver au XVIIe siècle qui nous parlent de ce que nous connaissons et qui nous permettent de nous dire que nous avons eu des aînés dans la foi. Alors, je vais tenter d'entrer dans le thème qui nous rassemble, où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et en faisant le lien évidemment avec la pratique de la prière silencieuse. Il est toujours important de rappeler que la liberté dont parle saint Paul, c'est pas la capacité à faire tout ce qu'on a envie, c'est pas l'absence de contraintes ou de limites, c'est principalement une libération. En effet, imaginer que la liberté, ça serait pouvoir faire tout ce que je veux, liberté dont rêve l'adolescent, c'est une illusion parce que d'une part, elle fait abstraction des limites de notre condition humaine. Et je ne peux pas faire tout ce que je veux parce que je ne suis pas tout puissant, et on pourrait dire heureusement. Et puis c'est une illusion parce que, enfin c'est une illusion dangereuse, parce que penser qu'être libre, c'est faire tout ce que je veux, c'est faire abstraction de l'autre. Et oublier que mon désir de faire tout ce que je veux peut asservir, opprimer l'autre. La liberté chrétienne est la vie de ceux qui ont été libérés. Et nous allons tenter de voir de quoi. Mais avant de voir de quoi, arrêtons-nous sur le verbe et sur le temps du verbe. Nous avons été libérés. Le Christ nous a libérés. C'est pour que vous soyez vraiment libres que le Christ vous a libérés, dit Paul aux Galates. C'est-à-dire que cette libération, elle est derrière nous. La victoire, elle est acquise. Nous avons été libérés, ce qui veut dire que ce n'est pas à nous-mêmes de nous libérer à la force du poignet ou à la force de la méditation. Nous avons été libérés, le salut nous est donné une fois pour toutes. Et donc nous n'avons pas à construire cette liberté, à la gagner, nous avons à l'accueillir. Et c'est aussi difficile que l'accueil de la guérison lorsqu'on est malade. Tout le monde, quand on est malade, dit qu'il souhaite guérir, mais en fait, la médecine comme la psychanalyse savent très bien que ce n'est pas si évident que ça, et que bien souvent, on reste accroché à sa maladie parce que la maladie a porté une identité, un statut social, des compensations, des câlins, des tas de choses intéressantes, mais qu'en fait, on n'a pas tant envie que ça d'en sortir. Donc, ça peut sembler être d'une banalité torride de dire nous avons à accueillir cette liberté, bah oui, bien sûr, avec joie, mais pas si facile que ça, pas si facile que ça. Alors, ce soir, je voudrais vous proposer de méditer sur quelques dimensions de cette libération, qui ont, à mon avis, quelques liens avec la prière silencieuse. D'abord, et ce n'est pas le plus petit morceau, liberté à l'égard de soi-même. Intéressant de se dire que le Christ m'a libéré de moi. Et il est capital de souligner tout de suite, avec toute la tradition spirituelle chrétienne, que s'il y a une liberté possible à l'égard de soi-même, cela passe par la connaissance de soi, sans mépris, sans déni. Être libre à l'égard de soi-même, c'est surtout pas faire comme si je n'existais pas. on ne peut entrer dans la liberté à l'égard de soi-même que si on entre dans une liberté à l'égard de ce qu'on a identifié, de ce que l'on connaît, de ce qu'on a osé regarder en face. Alors vous le savez bien, le silence de la prière, l'absence de toute activité pendant la prière peut quelquefois entraîner le surgissement de toutes sortes de choses qui nous surprennent et qui n'ont rien à voir avec la prière. Des souvenirs qu'on croyait complètement enfouis, des émotions qui se mettent à prendre de l'ampleur, des images qui deviennent obsédantes, les ingrédients de la recette du bœuf bourguignon dont il nous manque toujours un, et dire, mais est-ce que c'est du vin rouge ou du vin blanc? Donc, je crois qu'au début, je disais souvent ça dans les sessions pour les gens qui débutaient. Maintenant, je ne le dis plus parce que j'ai eu l'impression qu'à force de le dire, on déclenchait ce phénomène. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il faut trop en parler. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver que dans la prière, des choses vraiment très bizarres et très profondes remontent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et ce que dont nous faisons tous l'expérience, c'est que nous sommes habités par tout un tas de trucs dont nous ne savons vraiment pas très bien quoi faire. Et ici, je voudrais vous transmettre une des innombrables perles de l'enseignement de Maître Eckhart, mais qui était sûrement une perle à son époque, mais qui aujourd'hui a une saveur incomparable dans cette époque du développement personnel et des stages très chers pour découvrir qui nous sommes. Je ne parle pas de la rencontre nationale de Nevers. Eckhart disait, observe-toi toi-même. Et chaque fois que tu te trouves, laisse-toi. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est tout simplement génial. Observe-toi toi-même. Donc, ose regarder qui tu es. Ose regarder ce qui t'habite. Et puis quand tu t'es trouvé, laisse-toi. Entendez bien, le laisse-toi chez Eckhart, c'est le grand thème du détachement. C'est pas méprise-toi, c'est pas foule-toi aux pieds. C'est simplement laisse. 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 Laissez. Laissez. Lâcher prise, slogan, réclame, que c'est agaçant. Pas lâcher prise, il n'y a pas de prise. Simplement, laisse. Ne commence pas, parce que lâcher prise, il faudrait d'abord avoir pris. Mais non, ne prends pas, laisse. Laisse. Chaque fois que tu te trouves, laisse-toi, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, oui, il s'agit de se regarder soi-même, de s'observer sans en avoir peur. Et on peut regarder en face tout ce bazar qui nous habite, et Dieu sait que nous sommes créatifs, hein, à ce point de vue-là, mais sans se laisser fasciner, sans se dire, mais pourquoi est-ce que alors, je suis en prière, j'ai pensé au bœuf bourguignon, mais le vin rouge, mais lorsque le vin rouge, ça me rappelle pas mon grand-père, blablabla. Stop! On arrête le cinéma. On arrête le cinéma, ça n'a aucun intérêt. Et donc, je regarde ce qui est en moi, je ne me laisse pas fasciner. Moi, il y a un petit slogan qui, à certains moments, m'aide beaucoup. Je vous refile mes recettes. Vraiment, là, c'est la confidence. Hein. C'est dire, c'est en moi, mais c'est pas moi. Je trouve que ça aide énormément. C'est en moi, mais c'est pas moi au sens... c'est pas moi comme le gamin qui dit, c'est pas moi, monsieur, c'est pas moi. Hein. C'est pas une question de culpabilité. C'est de dire, ce n'est pas moi, c'est pas mon identité profonde, quoi. Il y a ça en moi, et ben basta. Oui, j'ai une image érotique pendant la consécration, c'est pas le rêve pour un prêtre, bon ben voilà, c'est là, mais je ne vais pas en faire un fromage, hein. Je suis en train de dire la messe, donc basta. Hein. Ce n'est pas mon identité de prêtre, non. Voilà. C'était là, bah tiens, c'était là. C'est pas terrible, mais enfin c'est là. C'est là. Et je ne sais pas très bien pourquoi c'est là, mais en tout cas, je ne vais pas m'y attarder autrement. Parce que ce n'est pas l'essentiel. Et je pense qu'il y a quelque chose d'incroyablement bien vu dans ces formes de prières répétitives, C'est cette idée que en ce moment, ce que j'ai à faire, c'est à dire le nom de Dieu, c'est à me tourner vers lui en m'appuyant sur ce mot, et que j'ai ça à faire, à me tourner vers Dieu. Tout le reste est second. Tout. Tout. Que ça soit beau, pas beau, érotique, spirituel, caritatif, fiscal. Basta. 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 Mais le basta n'est surtout pas mépris, hein. C'est ça qui est vraiment important. C'est détachement. Détachement. Observe-toi et laisse. Alors ça, c'est comme toutes ces formes de libération dont je parle ce soir, c'est jamais fini, hein, évidemment. Jamais considérer que le grand œuvre du détachement est terminée. Ça y est, je suis détaché. À ce moment-là, je deviens fasciné par mon propre détachement. Deuxième dimension importante, nous avons été libérés du mal. C'est important de rappeler que la prière contemplative, même au sein de votre admirable communauté, n'est pas pratiquée par des anges. Et oui, vous voyez, je suis lucide. Bien qu'étant invité, je suis lucide. Il y aurait une grande illusion à croire que notre cheminement spirituel, dans sa fidélité, son engagement sérieux qui nous caractérise, nous tient indemne du péché. Tout méditant que nous sommes, tout contemplatif que nous sommes, nous continuons à choisir des satisfactions indignes d'un être humain. Nous continuons à choisir d'exercer un pouvoir sur l'autre plutôt que de lui laisser sa place. Nous continuons de bien des manières à nous sauver nous-mêmes, à chercher à nous sauver nous-mêmes sans l'aide de Dieu. Ça s'appelle le péché. Et si la victoire du Christ est acquise une fois pour toutes, notre participation effective à cette victoire nécessite que nous retournions constamment vers le Christ. Et donc ici encore, c'est la pratique du détachement, c'est-à-dire se détacher constamment de ce qui nous fascine, de ce qui nous attire et qui nous arrête. Vous avez sûrement remarqué combien, pendant le temps que nous consacrons à la prière silencieuse, il y a des moments où il arrive un irrésistible besoin de donner un coup de téléphone extrêmement urgent, de regarder de manière immédiate si par hasard on n'aurait pas reçu un texto de Germaine, parce que Germaine devait m'envoyer un texto. Bref, des tas de choses qui sont toujours de l'ordre de l'urgence, parce qu'en fait, nous sommes dans la contemplation comme des cardiologues d'astreinte. Nous sommes comme ça tendus en disant il y a des urgences qui vont arriver. Et en fait, on n'attend qu'une chose, c'est qu'il se passe quelque chose. Parce qu'en fait, vous avez peut-être remarqué, il y a des jours où on s'ennuie copieusement, quoi. Donc on se disait si au moins il pouvait se passer quelque chose. Et alors on se met à broder comme ça. Et il nous faut, à ce moment-là, faire le choix de Dieu. Je trouve que ça aide beaucoup de penser que lorsque nous disons le mot de notre prière, nous le disons dans la foi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on fait un acte de foi. À ce moment-là, on fait le choix de Dieu. Or ça, c'est exactement ce qu'il faut faire pour entrer dans la liberté à l'égard du péché. Eckhart n'est pas quelqu'un qui propose une progression avec des étapes, etc. Avec Eckhart, la vie est assez exigeante, mais relativement simple. C'est que soit on sonne juste, soit on ne sonne pas juste. Soit on est en Dieu, soit on n'est pas en Dieu. C'est tout l'un ou tout l'autre. Et donc, Eckhart dit, il suffit que l'homme se détourne du péché pour que Dieu se donne à lui. Parce que nous donnons soit des trucs qui n'en valent pas la peine, soit à Dieu. Alors évidemment, si on entend ce propos-là comme un propos qui désignerait un état stable, c'est impraticable. D'être totalement en Dieu tout le temps. Impraticable. Mais en revanche, ce qui est tout à fait accessible, et nos formes de prière répétitives nous y aident considérablement, c'est au moment où nous disons le mot, de tout lâcher pour, comme dirait Eckhart, se jeter en Dieu. Bien l'image, pas très mystique, mais assez juste, je pense, du bûcheron. Vous savez, le bûcheron à l'antique, pas le gars avec la tronçonneuse, ça c'est pas très mystique, mais le bûcheron à l'antique, qui au moment où il abat sa hache, il fait ah! Il est complètement dans sa hache, quoi. Enfin, évidemment, s'il est distrait à ce moment-là, il se coupe le pied, quoi. Donc, faut qu'il y aille, quoi. Il est complètement dedans. Eh bien, je crois qu'il faudrait que nous soyons complètement dans notre mot au moment où on le dit. Et puis, une fois qu'on a fini, ben, on recommence. Ça vous fait marrer, mais vous savez que c'est praticable, ça. On ne peut pas être constamment en Dieu. Mais on peut quand même essayer d'être en Dieu le temps de dire Jésus ou Maranatha, quand même. Maranatha, c'est déjà plus long, mais vous êtes des pros. Mais c'est pour ça que le nuage d'inconnaissance disait un mot court de syllabes, hein, pour qu'on n'ait pas le temps de s'échapper. Mais ce n'est pas simplement une histoire de concentration mentale. C'est beaucoup plus puissant que ça. C'est le choix de Dieu. C'est dire, pour une fois, je laisse tout ce qui me fascine. Je laisse tout ce qui me tente et je fais le choix de Dieu. Je ne résiste pas au plaisir de citer Maître Eckhart, vous avez peut-être remarqué que j'en parle souvent. Demain, je parlerai d'autres auteurs, rassurez-vous. Si l'homme se relève complètement du péché et s'en détourne entièrement, alors le Dieu fidèle fait comme si l'homme n'était jamais tombé dans le péché. Pas un seul instant il ne songe à lui faire expier tous ses péchés. Égalerait-il en nombre tous ceux de l'humanité, jamais Dieu ne lui en tiendrait rigueur. Jamais il ne cesserait de se montrer avec cet homme aussi intime qu'il l'a jamais été avec une créature. Pourquoi est-ce que Dieu se donne avec cette générosité? Parce que l'homme s'est détaché complètement du péché. Oui, c'est. Je ne sais pas si on fait encore ça, mais quand on était petit et qu'on apprenait à faire du ski, on apprenait à faire des conversions et on se cassait la gueule. Vous savez, c'était terrible. Hein, il fallait. Là, on se mélangeait, on faisait des nœuds, c'était absolument terrible. Mais c'est ça. C'est vraiment, on fait un virage à 180 degrés. Et ce qui me tente, ce qui me fascine, basta, je le laisse et je me retourne vers Dieu. Et il ne s'agit pas de se dire, oui, mais en fait, je sais que je vais retomber après. Non, mais là, dans l'instant. Hein, est-ce que je suis prêt, dans l'instant, à me donner à Dieu? Un jour où il prêchait, Eckhart dit, la joie dont je vous parle, elle est pour vous, avant que vous soyez sortis de cette église, avant même que j'ai fini de prêcher. Là. Et donc, est-ce que là, je suis prêt, comme un cri, quoi, à me lancer vers Dieu? Ça ne va pas durer. Et alors? Et alors? Ma vie en sera transformée si au moins une fois de temps en temps, j'ose lâcher tout. Toutes mes sécurités, tout mon bazar. Et dire à Dieu, me voilà, les mains vides. Et donc, cette radicalité-là, je crois que dans la prière silencieuse, elle nous est accessible. Le temps de dire ce mot, ce petit moment, tout petit, je peux là essayer d'y être complètement. On est très fort quelquefois pour arriver à dire le mot tout en pensant à autre chose. Mais si de temps en temps, j'essayais d'y être, de me détourner de tout ce qui n'est pas Dieu et qui me fascine tellement. Dès que j'aurai fini, la fascination va reprendre et bien je recommencerai avec le mot. Alors je crois qu'il y a là un enjeu de conversion à l'égard du péché, à l'égard de notre complicité avec le mal. Ce n'est pas la conversion retentissante, ce n'est pas la grande décision, la lettre de rupture. Non. Mais c'est un choix de Dieu microscopique et inlassablement répété. Et c'est parce qu'il est microscopique qu'il peut être radical. C'est parce que c'est tout petit que je peux rêver qu'à ce moment-là, je peux peut-être y être complètement. Et sans faire de bruit, il va peut-être être la source de profondes conversions qui seront la conséquence de cet enracinement patient, inlassablement répété en Dieu. Donc il ne s'agit surtout pas des moments où nous sommes particulièrement peu fiers de notre existence, de dire je me sens vraiment trop nul pour prier. Catastrophe ça. On n'est jamais trop nul pour prier. Ce serait plutôt l'inverse qui serait inquiétant. Si on se disait aujourd'hui je suis particulièrement saint, je vais faire une prière, vous allez voir, ça va être du haut de gamme. Là on est mal parti. Mais oui, je suis nul, complètement nul, c'est vrai. Mes efforts de sainteté n'ont rien à voir avec la sainteté de Dieu. Donc basta. Tout ce que je peux faire, c'est de me jeter en lui. Le temps de dire ce mot. Alors il y a une autre forme du mal dont le Christ nous a libérés, c'est le mal que nous subissons, toutes les épreuves de notre existence. Et ici, ça me semble capital de souligner que la prière silencieuse n'est pas une prière pour des gens qui vont bien, pour des gens qui sont sereins et zen. Zen, pas au sens de la grande tradition du Japon, mais zen au sens de ceux qui sont zen parce qu'ils mangent du bifidus actif et qu'ils ont une chaudière zen. Ces âneries-là. Vous connaissez sûrement ce verset bouleversant du psaume 23. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Comment ça se fait que nous sommes, en effet, à certains moments, capables de traverser les ravins de la mort, de traverser des épreuves parfois terribles, sans être anéantis, et même quelquefois en gardant la foi? Est-ce que c'est parce que nos prières de demande ont été exaucées comme nous l'avions rêvé? Ça peut arriver, mais vous savez que c'est quand même assez rare. Je crois au contraire que si dans l'épreuve notre prière se limite à une prière de demande, et que notre demande c'est simplement que l'épreuve s'arrête, notre foi est en danger. Parce que ça risque, les choses ne vont pas se passer comme nous l'imaginions. Et puis, là encore, nous, en faisant ça, nous faisons l'impasse sur le fait que l'épreuve, ça fait partie de la vie humaine et qu'aucune prière ne peut effacer cette dimension de notre existence. Et puis surtout, si notre prière dans l'épreuve se contente à demander à Dieu de l'aide, on fait de Dieu un secouriste ou un médecin efficace. Descartes disait, si quand tu es malade, tu ne demandes que la guérison à Dieu, c'est comme si tu marchais pendant 3 semaines pour aller voir le pape, que tu obtenais une audience avec le pape, et qu'arrivé devant le pape, tu lui demandais de t'offrir un petit pois. Ah ouais, on se marre bien quand on lit Descartes. On ne comprend rien, mais on rigole. Hein ? Demander la guérison à Dieu, c'est comme demander un petit pois au pape. En déliant. Mais c'est extraordinaire cette image. De dire, mais Dieu est prêt à nous donner le salut, Dieu est prêt à nous donner la vie avec lui. Dieu nous partage ce qu'il est et nous lui disons, j'ai mal aux dents, tu ne pourrais pas venir. Alors je crois que dans la prière silencieuse, nous nous recentrons inlassablement sur cette présence de Dieu en nous, cette présence de Dieu à nos côtés, dans les ravins de la mort. Ce n'est sûrement pas une prière pour des gens particulièrement sereins. Au contraire, je le crois et je le crois d'expérience, dans sa simplicité, dans sa pauvreté. C'est peut-être la seule prière possible dans les épreuves majeures de la vie. Je ne sais pas pourquoi cette épreuve m'arrive, je n'ai aucune idée de l'avenir, j'ai peut-être plus d'espoir, je suis peut-être écrasé par le conflit, par l'injustice, par la rechute de la maladie. J'ai finalement rien à dire, ni à Dieu, ni à personne. Je ne saurais pas quoi demander. J'ai le sentiment d'avoir quasiment perdu la parole, mais je peux au moins me tenir en présence de Dieu. J'aime beaucoup le premier verset du psaume 87, Seigneur mon Dieu et mon salut, en cette nuit où je crie en ta présence. En cette nuit où je crie en ta présence. Et le psaume ne dit pas ce que je crie. Mais je sais que quand je crie, c'est en sa présence à lui. Donc il me semble que dans les moments les plus rudes de notre existence, la prière silencieuse est extrêmement précieuse, qu'il faut s'y accrocher comme un noyer à sa bouée. Parce que d'une part, elle est accessible, on n'a qu'un mot à dire, donc on n'a pas à faire des grands discours. Mais elle manifeste que ce que je suis pour Dieu et ce que Dieu est pour moi est plus important que tout ce qui m'arrive. L'un des grands problèmes aussi de l'envahissement de la prière par la prière de demande dans ces moments-là, c'est qu'en fait, l'épreuve envahit complètement aussi la prière, quoi. C'est que on est dans le pétrin, on y pense toute la journée, on y pense toute la nuit, et les rares moments où on essaye de prier, et ben on parle à Dieu du pétrin, quoi. On est dedans, dedans. Mais c'est là qu'ils ont raison quand ils disent « ça me prend la tête ». Ça prend la tête, ça prend toute la tête. Or, nous autres, dans nos diverses pratiques, nous osons dire, bah, à ce moment-là, ce qui est vraiment urgent, c'est que tu t'assoies et puis tu dis ton mot. Mais ça n'a aucun rapport avec mon épreuve. Ben oui, justement. C'est bien ça qui est salvateur. Je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce que vous savez bien que dans l'épreuve, on peut avoir de la gratitude pour un ami qui nous rend service, mais on a surtout une immense gratitude pour les amis qui n'ont pas pris la fuite, quoi. Les amis qui sont restés là. Pas forcément qu'ils ont fait des choses pour nous, mais ils étaient là. Ils n'ont pas pris la fuite. Mais il me semble que nous pouvons, dans la prière silencieuse, dans ces moments-là, penser cela. Dieu ne prend pas la fuite. Je traverse les ravins de la mort et il est avec moi. Écarte encore, toujours. Il est très doux qu'un ami se tienne près de son ami. Dieu se tient près de nous et il se tient à demeure près de nous, constant et immobile. Bon. Dieu se tient à demeure près de nous, constant et immobile. Le roc, quoi. Quoi qu'il arrive. Et dans la prière silencieuse, c'est devant ce mystère que je me place. Alors que ma vie tombe en ruine, que je suis assailli de difficultés qui semblent sans solution, Dieu demeure près de moi. Alors pour terminer de manière plus réjouissante, je voudrais aussi partir dans une autre direction de méditation de ce verset qui nous réunit ce week-end sur où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. En m'arrêtant sur le fait qu'il y a aussi une liberté dans le mouvement, c'est-à-dire que dans la tradition chrétienne, la vie mystique n'est pas un état stable, c'est un mouvement, c'est une quête inlassable de Dieu. En effet, nous nous appuyons pour prier ainsi sur le fait que Dieu a fait en nous sa demeure, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et déjà, cela nous donne une grande liberté. moine anonyme, un grec du 6e siècle, qui a cette formule magnifique, tu es un temple, ne cherche pas de lieu. Tu es un temple, ne cherche pas de lieu. Déjà là, il y a ce mouvement-là. C'est-à-dire que, bon, si une église, ça nous aide à prier, prions dans une église, mais s'il n'y a pas d'église, eh ben, prions dans l'église. Puisque le temple, dans la tradition chrétienne, le temple, c'est d'abord et avant tout notre corps. Mais le fait que nous osions dire ça, c'est immense. Hein. Le temple, le lieu saint, le lieu où Dieu réside, c'est moi. Ah oui. Et d'arriver à dire cela sans limiter en rien la transcendance de Dieu. Il faut que Dieu reste Dieu. Il ne s'agit pas que Dieu, ça soit mon petit moi, moi. Là, hein, bien là, bien au chaud. Moi, 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 moi. Non, 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 non. Dieu reste Dieu et pourtant, il établit son trône dans notre âme. Difficile à penser, ça. Et heureusement, c'est sans doute parce que c'est difficile à penser, heureusement, nous n'en savons rien. Où est l'Esprit du Seigneur ? Là est la liberté. Oui, l'Esprit du Seigneur est libre. Il n'est limité ni par nos attentes, ni par nos désirs, ni par la conscience ô combien forte que nous avons de nos limites, de notre culpabilité. Il n'est pas limité non plus par nos certitudes, qui nous habite sur tout ce qui doit changer en nous ou chez les autres, d'ailleurs plutôt chez les autres que chez nous, pour que le monde aille mieux et qu'on puisse enfin se mettre à prier. Nous n'arrêtons pas de mettre des barrières, des cases, des trucs qui nous sécurisent, et l'Esprit du Seigneur est libre. Libre et bienveillant. Libre et bienveillant, nous n'avons rien à craindre de sa liberté, mais nous avons quand même à nous mettre en tête qu'il n'agit pas comme nous, au même rythme que nous, avec les mêmes moyens que nous. C'est quand même extraordinaire le nombre de gens qui disent, en y croyant très fort, « Ah ben j'ai senti une grande chaleur, c'est vraiment le signe que Dieu était là. Hein, parce que, donc Dieu est chaud. » Quand même fabuleux, moi, chaque fois que j'entends ça, ça me transperce, quoi. Alors ça vous fait peut-être rigoler, mais avouez au fond de vous-même. Est-ce que vous n'avez pas quand même la conviction que si vous ne sentez rien dans la prière, si vous ne constatez rien, c'est la preuve que Dieu n'agit pas. Tous ces gens qui disent « je voudrais mettre Dieu dans ma vie », comme s'ils les avaient attendus. C'est comme extraordinaire cette expression « je voudrais mettre Dieu dans ma vie ». Si j'allais le prendre sur l'étagère, je le mettais dans ma vie. Mais peut-être bien qu'il y est. Hein. Et donc, dans la pratique de la prière silencieuse, je pense que des rassemblements comme ça sont l'occasion de s'encourager mutuellement pour dire « oui, nous ne sentons rien ». Ouais. C'est pas uniquement moi. Non, non, non. Nous ne sentons rien. Il ne se passe rien. Tous les jours, rien. Pendant des années, rien. Et puis un jour, on découvre qu'on a changé. Un jour, on découvre qu'on réagit plus de la même façon à une situation difficile, que des problèmes qui nous semblaient insurmontables sont aujourd'hui à leur place dans nos vies, dans nos préoccupations. Et nous pouvons penser que c'est peut-être cette pratique-là qui a suscité un tel changement. Mais nous n'avons rien perçu sur le moment. Nous le percevons après coup. Et donc, oui, on peut faire des efforts pour laisser ses émotions, tout ça. Observe-toi toi-même, laisse-toi, on a tout bien compris. Mais il y en aura toujours des émotions, il y aura toujours des images... On va travailler laborieusement à essayer de se tenir présent à Dieu au milieu de tout ce flot d'images et de pensées. Et puis un jour, on va découvrir qu'on est plus concentré qu'avant dans son travail, ou que même dans la prière, on est moins atteint par les images. Il s'est passé quelque chose. Quand, comment, je n'en sais rien et ça n'a aucune importance. Donc là, je crois que la prière, c'est pas par hasard que la prière silencieuse que nous pratiquons a de fortes accointances avec la tradition monastique. Je crois que ce n'est pas du tout une prière jésuite. Non, non, mais je ne dis pas ça pour faire du folklore. C'est que dans la tradition ignatienne, on va être très attentif à ce qui se passe en nous, les sens spirituels. On va faire un discernement à partir des sens spirituels, etc. Je crois que dans la prière silencieuse, il s'agit, comme nous autres moines qui chantons l'office plusieurs fois par jour pendant des années, il ne s'agit pas, quand nous nous retrouvons au chœur avec nos frères, nous dire qu'est-ce que je sens quand je chante le psaume, là, etc. Parce que si on se sent, on chante mal. Donc il faut bien chanter, bon, faire bien son boulot. Ce n'est pas pour dire qu'on est des fonctionnaires du culte, mais ça veut dire que ce qu'on fait, il faut le faire bien. Et c'est après des années qu'on se dit, tiens, mais 35 ans d'office, ça m'a quand même transformé cette affaire-là. Hein. Je ne suis plus tout à fait le même. Eh bien, je crois que dans la prière silencieuse, c'est pareil. Il faut essayer de bien faire, d'être là, aussi bien que possible, aussi fidèlement que possible. Et je suis parti, et ben me revoilà. Et je suis reparti, et ben me revoilà. Et je me revoilà. Bon, pas très brillant, mais c'est notre boulot. Et je ne cherche pas à me centrer sur moi, mais sur lui. Je suis là pour lui. Ce temps, lui est accordé à lui. Et donc, je ne sais absolument pas ce que lui fait pendant ce temps-là en moi. Et c'est très bien comme ça. Donc, nous ne savons pas comment l'Esprit du Seigneur agit en nous. Et puis, on peut terminer en soulignant que nous ne savons pas très bien qui est Dieu, nous ne savons pas très bien vers qui nous nous tournons et que nous n'avons jamais fini de découvrir qui il est. La prière silencieuse a aussi, c'est aussi monastique, une grande familiarité avec la grande tradition qu'on appelle de l'apophatisme, c'est-à-dire cette tradition qui depuis Grégoire de Nyssa, souligne qu'aucun être humain ne peut avoir une perception complète du mystère de Dieu et que nous avançons et que ce que nous découvrons du mystère ne nous sature pas, au contraire, renforce notre désir et nous donne le désir d'avancer. Vous avez sûrement lu déjà cette expression de Grégoire de Nyssa, de commencement en commencement vers des commencements sans fin. Et c'est très frappant de voir que quand on pratique cette forme de prière pendant des années, à la fois, oui, on sait faire, et puis c'est jamais comme avant, quoi. Enfin, on recommence toujours, on recommence tous les matins, de commencement en commencement vers des commencements sans fin. Et donc, il est capital de souligner que nous ne saisissons pas Dieu. Si on le saisit, c'est que ce n'est pas Dieu. Nous apercevons peut-être quelquefois quelque chose de son mystère, mais nous ne le saisissons pas. Et on sait bien, quand on voit l'itinéraire de convertis, combien une expérience très forte de la grâce de Dieu, qui les a poussés à la conversion, peut être aussi un obstacle, parce que ça a été tellement fort qu'ils peuvent avoir l'impression que Dieu, c'était ça. C'était ça. Ça veut dire que ce n'était que ça. Ça y est, ce jour-là, je l'ai touché. Alors non seulement je ne vais jamais pouvoir le retoucher de la même façon, mais en plus, quelle que soit la profondeur, le caractère bouleversant de l'expérience mystique vécue à ce moment-là, de toute façon, on n'a pas connu Dieu. Vous voyez, l'ineffable Frossard qui nous racontait que quand il était entré dans une église athée, et quand il était sorti et qu'il avait ouvert un catéchisme, il n'avait rien découvert parce qu'il, dans son expérience spirituelle, il savait toute la foi catholique. ça triste de dire des choses comme ça, parce que, bien sûr, je ne mets pas en cause l'intensité de sa conversion. Je dis simplement que s'il a l'impression que ce jour-là, il savait tout, et qu'après, il n'avait plus rien à apprendre, ben, je pense que c'est un peu court. Et c'est là qu'intervient l'intelligence. Parce que nous avons beau méditer, nous sommes intelligents. Ah oui ? C'est un scoop, hein ? Vous avez bien fait de venir. Hein ? Nous prions, cette prière-là, elle n'est pas très affective, hein, elle n'est pas très émotionnelle. Et c'est notre intelligence qui vient nous interpeller de temps en temps pour nous réveiller, pour nous dire, mais tu es tourné vers qui là ? Est-ce que tu n'as pas réduit Dieu à un nounours avec qui tu fais des câlins ? D'où l'articulation capitale avec la Lectio Divina. Que quand j'essaye de comprendre un texte, je me trouve confronté à une parole qui me parle de quelqu'un que je ne connais pas. Et donc, réjouissez-vous si vous tombez sur des textes bibliques auxquels vous ne comprenez rien. Amen, amen, Jésus. Parce que même le plus proche de vos amis ou de votre conjoint, j'espère qu'il y a des moments où vous dites, ben, je croyais connaître, en fait, je ne comprends rien. C'est là que vous êtes devant quelqu'un et pas devant une image, quoi. Et donc c'est vraiment très important, toutes ces occasions où intellectuellement on se ressaisit en disant « mais j'étais en train de m'endormir là spirituellement, je dois me réveiller, je dois continuer à chercher Dieu, continuer à chercher Dieu ». Bien l'image de la marche dans le brouillard qui est très présente dans le nuage d'inconnaissance, hein. Finalement quand on fait de la montagne dans le brouillard, si c'est vraiment le brouillard, et qu'on voit absolument rien, assez vite, on n'a plus le courage de monter. En revanche, si de temps en temps, le brouillard se déchire et qu'on aperçoit qu'au-dessus, c'est très beau, on a envie d'y aller. Puis quand on y arrive, c'est le brouillard. Bon, très bien. Mais on est stimulé parce que de temps en temps, le brouillard se déchire. Ben, c'est un peu cela que nous vivons dans la prière silencieuse. Donc nous avons été libérés. Nous pouvons en rendre grâce, nous pouvons essayer d'intégrer cette libération dans notre expérience spirituelle. Et puis nous devons aussi reconnaître dans la foi combien l'Esprit du Seigneur est libre d'agir en nous, pas forcément de la manière dont nous l'avions prévu. Il est très doux qu'un ami se tienne près de son ami. Dieu se tient près de nous. Il se tient à demeure près de nous, constant et immobile. Tu es un temple. Ne cherche pas de lieu. Observe-toi toi-même et chaque fois que tu te trouves, laisse-toi. C'est ce qu'il y a de mieux. Grégoire de Nice, avec un Y et deux S, s'il vous plaît. Thank you.